Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme d'habitude avec Charles Gave.
Toujours là.
Aujourd'hui, nous allons, enfin, comment dire, je ne savais pas trop de quoi parler
Tiens donc.
aujourd'hui, parce que
Si on arrêtait
l'actualité.
tout de suite comme ça, paf, on va se coucher.
On
Finalement,
peut
c'est
faire
genre qu'on
ça,
se couche.
bah finalement, voilà. Non,
Ah
non,
bon, dommage,
on va quand même faire
dommage.
émission,
Ah ouais, ah
voilà. Mais simplement parce que comment dire, les différentes nouvelles commençaient à être un petit peu répétitives. Et puis, avec Emmanuel ce matin, vous avez quand même évoqué, je crois, le sujet le plus important de ce début de semaine, à savoir la sortie de DeepSeek,
Ah ouais, ça
cette
c'est
nouvelle
rigolo ça.
intelligence artificielle chinoise, alors sur laquelle il y a beaucoup de spéculations. Voilà, certains disent, comment dire, abuse un peu parfois du manque de performance de DeepSeek, c'est-à-dire que forcément, comme c'est fait en Chine, il y a un petit peu de censure au niveau politique. Donc, si on lui demande par
Ouais, et
exemple ce
puis
qui
il
s'est
parle
passé sur la
est-ce qu'il
place
parle
Tiananmen en 89,
est-ce qu'il
bon.
parle l'anglais ou est-ce qu'il parle le chinois? C'est difficile tout ça.
Mais bon, c'est tout le monde reconnaît quand même globalement que c'est une IA très performante, une des plus performantes, si ce n'est la plus performante sur le marché, et que quand même elle utilise une puissance de calcul inférieure aux autres. Donc c'est une prouesse technique en soi. Maintenant, je voudrais évoquer un sujet. Comment sera le monde dans 10 ans? Enfin, 10 ans ou un peu moins ou un peu plus.
Je serai plus là.
On espère que vous serez quand même encore là, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec ce qui se passe en très peu de temps, avec Trump qui arrive à la Maison Blanche de nouveau, il semble redéfinir les termes de la politique de manière générale, la pratique de la politique. C'est peut-être le seul homme moderne qui a l'air de faire plus de promesses après son élection qu'avant.
Et qui en plus a
Donc,
l'air de tenir les promesses qu'il a faites avant, ce qui est tout à fait invraisemblable.
absolument. Et donc en quelques jours, il a fait plein de trucs. Il a changé les règles de la santé. Déjà, il a quitté l'OMS. Il veut inverser les flux migratoires avec la plus grande entreprise de déportation de l'histoire du pays. C'est ce qu'il
Il ne veut pas
revendique.
les inverser parce qu'il reste favorable, aussi curieux que ça paraisse, à l'immigration, etc. Mais il veut l'immigration légale.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il fait une différence essentielle entre vous venez chez nous si on vous a permis de venir et si on vous a pas permis de venir, et bien vous repartez chez vous, quoi. Donc c'est une différence qui me paraît essentielle parce que tout le monde a considéré que celui qui immigre légalement et celui qui immigre illégalement, c'est la même chose. Bah non, pas vraiment.
Ouais. Donc voilà, il annonce tout un tas de dérégulations en matière énergétique, industrielle, technologique pour maximiser la croissance. Il veut diminuer les budgets militaires en ayant une armée plus efficace, on va dire par dollar.
Ça me
Mais
paraît pas nouveau gêné, ça,
voilà,
ouais.
il veut dégraisser l'administration en allégeant le budget de 2 trillions de
Comment?
dollars avec le fameux
L'administration
doge.
serait-elle trop grosse? Vous
Oui.
voulez me dire qu'il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, qui sont payés à ne rien foutre ou à emmerder les autres?
Ouais, c'est un petit peu l'idée, c'est la mission d'Elon Musk.
Je croyais que ça n'existait pas, ce genre de choses, que l'administration, les gens travaillaient toujours très bien, qu'ils avaient dans l'esprit le bien commun, que bref. Je sais pas, mais vous voyez, je trouve désolant que dans une émission sérieuse comme celle-là, on pense qu'il y a des administrations qui soient pas
Bah,
un peu gonflées.
moi, je ne donne pas mon avis, je ne donne
Ah
pas.
non, non, mais attends, très
Moi,
bien,
je me mouille
non,
pas
mais
surtout.
je suis désolé qu'un homme comme Trump puisse penser des
Ouais.
contre-vérités comme celle-là, quoi.
Bah, il le pense en tout cas, et ce sera donc la mission du Doge. On voit que dès qu'il arrive en fonction, il y a une sorte de bras de fer permanent à l'international, sur la question du canal de Panama, sur le Groenland, on va en parler un petit peu, même sur le Canada. Et puis sur les théâtres d'opérations militaires comme Israël, Palestine et puis l'Ukraine aussi, il y a un conflit permanent. Sur la Chine, il y a un conflit, on va dire, technologique, commercial.
C'est pas nouveau.
Voilà. Et pour l'instant, il a même pas trop encore parlé de l'Iran. Pourtant, l'Iran, c'est quand même aussi dans un coin de sa tête. Donc voilà, il y a aussi la question de la fin du wokisme qu'on a traité amplement la semaine dernière. Et puis là, ce matin, j'ai vu qu'il parlait même de la possible suppression de l'impôt sur le revenu.
Oui, ce qui serait intéressant, parce que ce serait une très bonne chose, l'impôt sur le revenu, si on pouvait supprimer l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et ça permettrait enfin d'enlever cette incongruité qui est dans le cœur du système fiscal. Si vous empruntez de l'argent, vous pouvez déduire les taux d'intérêt de vos coûts. Et si vous prenez du capital, vous ne pouvez pas déduire les dividendes.
Oui.
C'est-à-dire que ça rend le capital extraordinairement cher par rapport à l'argent emprunté, ce qui fait que les gens ont un intérêt à emprunter, ce qui rend le système économique extraordinairement sensible au taux d'intérêt, à la volatilité, etc. Donc, un système dans lequel le coût du capital ne serait pas obéré par les taux d'intérêt ou... ça serait un système qui est à la fois beaucoup plus fiable, beaucoup plus fort et beaucoup moins fragile.
Oui, effectivement.
Donc voilà, tout ça, je veux dire, il faut quand même réfléchir à la façon dont l'État prélève sa livre de chair. Et en effet, ben, ça ne me paraît pas une mauvaise idée de réfléchir à la façon dont on pourrait le faire le plus efficacement possible.
D'ailleurs, à la base, il me semble qu'aux États-Unis, l'impôt sur le revenu, au départ, devait être exceptionnel.
Ah ben... tous les impôts ont été exceptionnels. Bon, il faut que j'appelle tout à ce jeune homme. Je connaissais pas un seul impôt qui n'ait pas été voté en expliquant qu'il n'allait pas durer, que ça n'allait pas être... Par exemple, je crois que l'impôt sur le revenu avait été introduit en France par Caillaux, je crois, mais je suis pas sûr, en expliquant que c'était juste pendant quelques années pour de façon... en général, c'est pour des raisons de sécurité nationale que...
Pendant les guerres,
on lève les impôts, mais surtout, c'est surtout avant les guerres, il faut préparer l'armée, etc. Donc, non, l'impôt, c'est ce que disait ce bon Milton Friedman. J'ai pas fini de boire là, mais ça va pas tarder. Il disait la plupart des programmes étatiques ont été, ce qui donne une idée la plus juste de l'éternité, c'est des programmes étatiques qui ont été installés de façon transitoire.
Oui.
Donc, si vous voulez, on vous fait toujours passer la pile en disant, on va vous augmenter vos impôts, mais attendez une seconde, c'est pas la CSG qui avait été inventée en France pour 2 ou 3 ans, elle qui ne veut jamais dépasser 1,5%, maintenant on est à je sais pas combien. Donc, c'est comme de dire, vous savez, c'est l'alcoolique qui dit, j'arrêterai de boire demain. Et puis, c'est la phrase perpétuelle, c'est toujours demain, quoi. Il arrête jamais de boire. Donc l'État est un... Et la seule façon, si on est un vrai homme de liberté, pour empêcher l'État de devenir omnipotent, obèse, de vous propiquer tout votre pognon, c'est de lui couper la route du fric. Et donc, la première des choses qu'il faut faire aussi, c'est aussi rendre la Banque Centrale indépendante, ou... Mais ça, c'est embêtant parce que ce moment-là, vous la mettez dans les mains des technocrates qui sont encore plus cons que les élus. Donc, bref, le problème de comment je contrôle l'État est loin d'être réglé, mon pauvre ami.
Oui, c'est clair. C'est clair. Mais en plus de ça, s'il veut vraiment aller jusqu'à supprimer l'impôt sur le revenu, pour le coup, c'est pas 2 trillions de dollars qu'il faudra économiser, ce sera beaucoup plus, hein, largement.
Sauf s'il lève des impôts.
Ouais.
Je sais pas sur. Je dis, mais au hasard, la consommation de produits étrangers, quoi.
Oui.
Par exemple, je sais pas, ça peut exister, ça.
Après, si c'est...
Il a dit qu'il aurait l'impôt sur le revenu.
Ouais.
Par exemple, en France, je crois que, je dis pas de bêtises, mais la TVA doit représenter au moins 50 ou 60% des recettes fiscales, non ?
Oui, c'est énorme. C'est le plus gros poste, clairement, de revenus de l'État, ouais.
Mais donc, vous pouvez le remplacer par la TVA. En France, le deuxième poste des revenus, si je ne me trompe, ça doit être l'impôt sur l'énergie, non ?
En France, l'impôt sur l'énergie...
Il y a la taxe sur les produits protéiniers, etc., ça doit y aller.
Possiblement, oui.
Sur lequel je crois d'ailleurs qu'en plus, il y a une taxe sur les produits protéiniers, sur lesquels on a mis une TVA en plus. C'est-à-dire l'impôt sur l'impôt, c'est une grande spécialité de l'Institut de finances.
Ça, c'est une grande invention française, oui.
L'impôt sur l'impôt, c'est bien ça ?
Plus vous payez d'impôts, plus vous payez d'impôts.
C'est-à-dire, donc... ce qu'il y a, c'est qu'en France, l'impôt sur le revenu représente plus grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'on le supprime.
Oui. Oui. Et pour le coup, ça pèse quand même sur un certain nombre de ménages, pas forcément les plus pauvres, du coup.
Mais... Ah, mais non, parce que je crois que les 10% les plus riches payent 85% de l'impôt sur le revenu.
Ouais, ce serait pas étonnant. Ouais,
comme dans tous les pays du monde. Hein. En plus, on a fait cette saloperie progressive. C'est-à-dire que plus vous réussissez, plus vous payez, quoi, de façon exponentielle. C'est-à-dire, on pourrait penser que les impôts devraient être en fonction de un flat tax. Quoi. Vous gagnez 100, vous payez 20%, puis on parle d'autre chose. Non, si vous gagnez 100, vous payez pas rien. Si vous gagnez 200, vous payez 10. Et si vous gagnez 400, vous payez 60. Donc, on pénalise le type qui travaille bien par rapport à celui qui ne fait rien.
Oui.
Et on a des résultats désastreux, c'est curieux quand même. Hein.
Oui, d'ailleurs, on implémente le système progressif dans le système de flat tax, puisque récemment, les sénateurs ont voté pour mettre la flat tax à 37% pour les gains, c'est les plus-values sur les valeurs mobilières, je crois pour les gains de plus de 2,5 millions d'euros, hein, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement.
Ils apprendront jamais. Remarquez, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit un monsieur Larcher, on voit un homme qui est quand même en forme physique, mince, on sent qu'il vit petitement, il est gras comme un moine, il a l'air de bouffer comme un côté comme des cochons. Le service, le système de retraite du Sénat est l'un des plus extraordinaires. Les gens qui travaillent au Sénat travaillent, je crois, 28 heures par semaine, ont 4 mois de vacances. Donc, si vous voulez, on sent... que là, pour ceux qui travaillent dans le Sénat, quand on voit M. Larcher, que la vie est dure. Quoi. Ouais,
je pense que ce serait rentable pour les Français de les mettre en vacances de manière perpétuelle. Bon, il ferait moins de mal.
Il ferait moins de mal. Ben, vous savez ce que tu disais. Décidément, j'ai beaucoup cité Milton Friedman, mais Milton Friedman, quand il gérait son argent, il disait « Moi, je ne mets de l'argent en bourse que quand le Congrès n'est pas en session.
Ouais. »
C'est-à-dire que dès qu'il y avait des gens qui étaient réunis à Washington pour discuter, il vendait tout, puis il attendait, puis dès qu'il repartait en vacances pour essayer de se faire réélire, hop, il rachetait, parce que quand ils étaient en session, ils ne savaient jamais ce qu'ils allaient inventer comme conneries.
Ouais. Aujourd'hui, l'astuce, c'est juste de répliquer le,
le portefeuille de ceux qui savent qu'ils vont avoir une connerie et qui vont là. Oui, c'est madame... Ouais.
Ça élimine tout risque au moins.
Ouais,
mais peut-être que ça va moins marcher du coup pendant les années Trump, parce qu'elle aura un peu moins de visibilité, mais encore que, à mon avis, elle peut très bien s'en tirer quand même. Donc voilà, moi je vois un président quand même, alors déjà une présidence qui commence de manière radicalement différente de la première présidence, où il y avait énormément de gens dans la rue pour hurler, mais en revanche, Trump ne faisait pas grand-chose techniquement.
Il avait rien pu faire, on l'a immédiatement collé des histoires dans les pattes. Son ministre de la Justice l'a laissé tomber en plein milieu, puisqu'il c'était un sénateur du Sud qui avait été acheté à cet effet, et qui a disparu depuis d'ailleurs. Et donc, on lui a collé l'affaire russe, et puis ensuite, on a essayé de l'impeach. Donc, en fait, il sait pas. Il disait, c'était un très joli slogan électoral, je vais nettoyer les marais pestilentiels, ouais. Parce que Washington a été bâti sur des marais, hein, mais c'était un slogan. Une fois qu'il y a été, il s'est rendu compte que c'était vraiment des ordures et des criminels. Et là, au début, la première année, les quatre premières années, il s'est vraiment fait massacrer. Puis ensuite, pendant 4 ans, ils n'ont pas arrêté de l'empêcher d'essayer de revenir. Et maintenant qu'il est là...
Ouais, on a l'impression qu'il a rattrapé des années déjà...
Je crois qu'il a compris quelque chose.
Ah oui, je pense qu'il a compris quelque chose, effectivement. Et
Par exemple, il a déjà viré 10 juges qui travaillaient dans l'histoire de... Celui qui était avec, il était chargé de le condamner, là, à le ministère de la Justice, pour avoir contribué à une procédure qui était complètement injuste. Il y en a déjà 10 qui ont été virés. Alors, toute la presse de gauche gueule en disant, mais enfin, c'est scandaleux, c'était des juges. Mais il y a des juges qui sont corrompus. Et ceux qui doivent être libidés le plus rapidement, c'est le juge corrompu. Parce que le juge corrompu et qui agit pour des fonctions politiques, c'est ça qu'il faut, la démocratie en l'air. Et donc, la question, c'est qu'il va y avoir des procès pour ces gars-là, et on va déterminer si oui ou non, devant un procès ouvert, avec tous les tiroirs ouverts, il y a eu des saloperies, et s'il y a eu des saloperies, eh bien, les juges corrompus autrefois, c'était ceux qui étaient condamnés le plus sévèrement dans la Bible, dans toute l'éternité, etc. Parce qu'un juge corrompu, c'est, quelle que soit la raison, pour des questions d'argent, pour des questions politiques, c'est l'abomination dans un système.
Oui. Oui, clairement. Ça relègue la démocratie au second plan. C'est ce qu'on voit partout en Europe. Et en plus de ça, nous, on a plusieurs échelons, puisqu'on a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, sans parler des juridictions européennes.
La Cour européenne des droits de l'homme
et la Cour de justice de l'Union européenne, ça fait quand même un paquet de trucs.
Et dans toute une série de juges sont nommés, on ne sait pas très bien comment, ni à partir de quelles interventions. Je crois que c'est Valeurs Actuelles qui avait montré que la quasi-totalité de la Cour européenne des droits de l'homme, ça avait été nommé par des gars poussés par George Soros. Ce qui est marrant, c'est quand George Soros fait nommer des juges, personne ne dit rien. Quand Musk dit qu'il faut foutre en l'air les juges corrompus, tout le monde dit qu'est-ce qu'il a à faire avec notre démocratie. Si les juges sont corrompus, ça n'est plus une démocratie, et Musk a le droit de gueuler.
Oui. On voit bien que du jour au lendemain, il fallait totalement se soumettre aux Américains, il fallait rester dans leur giron, faire ce qu'ils demandaient de faire, et du jour au lendemain...
Et surtout défaire les États européens qui étaient la protection individuelle des Européens. C'est à chaque État, en fond, à quoi ça sert l'État? C'est à protéger les nationaux, qu'on le voyait, non. Eh bien, si vous la nommez comme Soros, il le dit, il l'a écrit, c'est pas un secret, il n'a qu'une idée, c'est que ces protections étatiques disparaissent.
Oui, oui. Ah, il a jamais caché son projet. Hein,
ah non, il l'a écrit, il l'a remis, ça c'est aucun problème, on sait très bien. Le but de Soros, le digne héritier de Jean Monnet, c'est de faire disparaître les États européens.
Mmh. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est clairement un shift, alors à tous les niveaux, déjà au niveau politique, mais aussi au niveau culturel. On en parlait encore une fois la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on a l'impression que personne ne dit rien sur ce que fait Trump, alors qu'il fait des trucs qui auraient halluciné tout le monde il y a 8 ans. La question, par exemple, de dire on décrète qu'il n'y a que 2 sexes aux États-Unis. Ça c'est le genre de truc, ça aurait fait hurler toute la communauté LGBT et toute la gauche en fait de manière générale, et aujourd'hui on a l'impression que tout le monde dit bon, bah oui, c'est compréhensible.
Oui, parce qu'ils ont été, c'est toujours pareil si vous voulez, Ange. Vous avez les gars qui ont des idées à la con, professeurs d'université, oui, etc., on s'en fout, mais, oui, mais tant qu'ils ont, il y a une espèce de gentillesse des crânes d'œufs, en fonction des crânes d'œufs, on dit bon, il a juste fait trop d'études, ça lui a pas apporté sur le ciboulot. Et puis quand ils arrivent vraiment au pouvoir et que vos enfants commencent à se faire martyriser en classe, à ce moment-là, ça vous amuse beaucoup moins, parce que on aime bien le farfelu à condition qu'il ait pas de, qu'il n'ait pas de pouvoir, quoi.
Oui, qu'il n'ait pas d'incidence sur le quotidien.
Que ses enfants soient élevés, que l'école soit bonne, que les hôpitaux restent à peu près normaux. Mais à partir du moment où où ils détruisent les écoles, ils détruisent ça, ça finit par agacer le père de famille, quand même.
Bah, quand on commence à vous apprendre que votre enfant de 5 ans, on va peut-être le transformer en petite fille.
Parce qu'il le demande.
Voilà, parce qu'il a joué avec une Barbie après les cours.
Moi, j'avais un frère aîné que j'aime beaucoup, et qui est toujours vivant d'ailleurs, qui avait 3-4 ans, il avait 18 mois de plus que moi. Bah, il a joué avec des poupées jusqu'à 9-10 ans, quoi. Il aimait beaucoup ça. Oui,
non, il aurait été en danger, là, aujourd'hui.
Il aurait été en danger.
Vous auriez eu une sœur.
Il n'y avait pas un type qui était plus coureur que lui, quoi.
Ouais.
Donc il adorait les femmes, donc on l'aurait transformé en petite fille, et ben je crois qu'il serait senti un peu seul. Hein.
Ouais, bah vous auriez eu une grande sœur.
Non, j'aurais pas une grande sœur, j'aurais eu quelqu'un de très malheureux, plein de produits chimiques, enfin bref, ça aurait été effroyable. Donc, cette idée, si vous voulez, qu'il faut intervenir dans la vie des gens, mais quand est-ce que tous ces hommes de gauche vont comprendre que si on foutait la paix aux gens, quoi, c'était quand même, moi c'est l'essentiel de mon combat, c'est les gars, si vous me foutiez la paix, ça serait déjà bien, quoi, ça serait, j'aimerais augmenter le petit là, mais je peux pas, parce que si je l'augmente de 100 euros, ça va me coûter 700 euros, donc ça m'agace, quoi. Ouais. Voyez, donc il continue à vivre dans la misère.
Moi, je veux bien prendre le surplus que prend l'État, hein, ça me dérange pas. Hein,
oui, mais non, mais si je vous en augmente de 700, ça va me coûter 4000, alors vous me faites rigoler.
Ça se reporte toujours.
Mais oui, me donne une excellente raison de ne pas vous augmenter, vous comprenez.
Oui, bon, de toute façon, mon salaire est déjà énorme. Donc,
C'est vrai, pardon, j'avais oublié ce détail, oui, c'est vrai. Il pète dans la soie, ce salopard.
Mais enfin voilà, je vois ce président qui fait tous ces trucs là, et je me pose aussi une question sur la posture qu'il adopte, parce que alors il y a un truc aussi que j'avais pas évoqué, c'est que il voudrait forcer des États, à notamment la Californie, à vérifier l'identité de ses électeurs.
Ça me paraît une bonne idée, ça.
Alors évidemment, moi j'y suis favorable.
Écoutez, vous pouvez pas prendre un avion aux États-Unis, l'eau et une voiture sans avoir un papier d'identité.
Ah oui, non, mais il y a rien qu'on puisse faire. On peut pas acheter une bière dans
d'ailleurs,
un.
D'ailleurs, vous avez qu'à voir les seuls États dans lesquels, lors des dernières élections, Madame Kamala Harris avait eu une majorité, c'est ça où il n'y avait pas de vérification d'identité. Alors vous dites, c'est quand même un échantillon.
Bah, c'est tout de même assez normal.
Non, donc on sent bien qu'il y a des gens qui ont voté, c'est comment en Corse, il y a des tas de gens qui votent, qui sont morts depuis longtemps, ou qui ont voté plusieurs fois, enfin c'est les beautés de la démocratie corse, qui est un truc un peu à part.
Qui est une très grande démocratie. Hein. Moi, je veux pas de problème avec
les... Non, on n'a aucun problème avec les Corses, hein, comme le disait très très bien ce brave Astérix. C'est le problème avec les Corses, c'est qu'ils n'ont pas toujours le sens de l'humour. Donc on va dire que du bien des Corses.
Ouais,
ce point
étant
acquis, c'est une démocratie un peu spéciale, mais qui est locale, qui a l'air de marcher à peu près. Mm-hmm. Donc tout ça n'est pas méchant. Mais si j'analyse tout ce que fait Trump, d'abord, Il y a quelque chose qui me fait hurler de rire, c'est qu'ils se foutent de la gueule de ceux qui l'ont... Qui...
Oui.
Pour se foutre de leur gueule, ils se foutent de leur gueule, mais c'est à mourir de rire.
Oui,
c'est
là,
quand il parle à des journalistes un peu cons et tout, mais ils les roulent dans la farine. Ouais, donc, ouais. La première des choses, c'est le total manque d'humour que les gens qui le détestent ont vis-à-vis de Trump.
Oui.
Ce qui lui donne l'occasion de se foutre de leur gueule. Ça le rend
d'autant plus populaire et ça rend d'autant plus impopulaire, justement, d'autant plus moins attractif, c'est ça un anglicisme, enfin bon, moins attrayant le camp d'en face, quoi, qui a l'air d'être un camp extrêmement morose. Et d'ailleurs il y a une sorte de paradoxe avec Trump, c'est que c'est dans la stature, c'est un chef d'État extrêmement sérieux qui fait les choses de manière extrêmement sérieuse, mais qui le fait d'une manière légère. Globalement,
en se foutant de la gueule de ces par exemple, moi, le truc de dire aux Canadiens que s'ils veulent devenir le 51e des États-Unis, ils seraient les bienvenus.
C'est à mourir de rire.
C'est à mourir de rire parce qu'il sait bien que bon, mais d'abord ça c'est drôle, et puis ensuite là il va voir la maire de Los Angeles.
Ouais, ouais.
Après les incendies qui sont passés, il fait une réunion publique avec elle. Et puis la mère dit qu'elle a fait tout bien, etc. Et lui dit, mais pourquoi vous avez baissé le nombre de policiers de 70 millions de dollars? Pourquoi vous avez baissé le nombre de pompiers de 80 millions de dollars? Pourquoi vous avez refusé que l'eau soit dans les réservoirs à cet effet, sur les 300-350 camions de pompiers qu'il y a à Los Angeles, il y en avait à peu près 100 qui étaient en panne, qui n'étaient pas réparés. Et puis, ce qui est le plus rigolo, c'est que l'État d'à côté, ils ont essayé d'envoyer des camions de pompiers pendant que ça clamait, et qu'ils étaient refusés en Californie parce qu'ils ne passaient pas les tests pour sauver la planète, vous savez, pour le CO2.
Ah oui.
Donc tout était en train de cramer, les mecs, les camions de pompiers, je crois que c'était de l'Oregon, je sais plus quoi, qui étaient arrivés à toute allure pour aider, ils sont restés tranquillement à la frontière pour pas polluer l'air de la Californie. Donc, vous avez tellement augmenté, malgré ce que je vous avais dit de faire il y a plusieurs années, vous avez tellement augmenté, tellement les assurances en Californie, le coût des assurances anti, vous avez tellement mis de réglementation que toutes les compagnies d'assurance ont quitté la Californie parce qu'elles ne pouvaient plus exercer profitablement, de façon rentable. Et vous avez ce que vous méritez.
Oui. Donc, ah oui, il a éclaté dans cette.
Il a éclaté, la pauvre dame, elle est en pleurs, mais. Et donc, c'est-à-dire qu'il a cette capacité extraordinaire de dire aux gens, bon, voilà les décisions que vous avez prises, et voilà quelle est la conséquence, et maintenant vous pouvez dire que non, c'est pas la conséquence, mais si, c'est la conséquence. C'est la victoire du pragmatisme sur l'idéologie.
Bah oui, il y a un moment donné, il y a les faits et la logique, ça compte quoi dans la politique.
Ah ben en principe, si vous voulez, toujours la même chose. Hein. Si vous crachez en l'air, ça vous retombe dessus.
Ça vous retombe dessus, ouais. Si vous faites.
Sauf s'il y a beaucoup de vent, mais enfin, d'habitude, ça vous retombe dessus. Quoi.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, je voudrais parler un petit peu de l'international, notamment du canal de Panama et du Groenland.
Oui.
Parce que alors ça, je sais même plus on avait vraiment parlé, ou si juste il l'avait évoqué pendant sa campagne. Il me semble qu'il avait reparlé du Groenland très vite fait.
Mais oui. Comme une colique,
il me semble bien que effectivement, ça lui est venu un peu avant l'investiture. Et il s'est dit, voilà, il faut qu'on reprenne la main sur le canal de Panama que nous avions construit il y a plus d'un siècle. Il faut qu'on prenne la main.
Carter avait donné pour un euro.
Oui.
Pour un dollar.
N'importe quoi. Effectivement, le deal. Je suis pas spécialiste de l'histoire du Panama, mais le deal, c'était que le canal de Panama devait appartenir, je veux dire, ad vitam aeternam aux États-Unis. Et effectivement, ça a été cédé sous Jimmy
Carter.
L'État
du Panama a été créé de toutes pièces parce qu'il n'existait pas.
Oui,
je sais plus à qui ça appartenait, mais enfin, de chaque côté, je ne sais pas. Ça a été enlevé au pays qui était à côté, cette bande de terre, justement pour permettre aux États-Unis de dominer ça. C'était parce que c'est quand même... Si vous regardez la carte des États-Unis, sinon en bateau, ça fait un très très long voyage de faire le tour de l'Amérique latine,
ah bah,
puis de remonter,
oui, oui.
Bah, remonter comme ça, c'est pas gagné. Donc, et en principe, les gars qui exerçaient le pouvoir au Canada, ils étaient de façon générale bien avec les États-Unis, ils n'étaient pas là par hasard. Quoi. Donc, bon, le Panama, c'est, mettons, une question stratégique. Bon. On peut en discuter du droit des États-Unis à imposer leur volonté au Panama, mais enfin, ça me paraît pas totalement incongru que les États-Unis aient un droit de regard sur qui s'approche du canal de Panama, parce que c'est vite un peu bon.
Et puis c'est sur fond aussi de guerre commerciale avec la Chine, c'est-à-dire que la Chine alors ne détient pas le canal de Panama, mais est actionnaire majoritaire de certains ports autour.
Donc tout ça finit par rien. C'est bon. C'est un petit peu, il faut le savoir, que le canal... Vous savez, là, Istanbul, Constantinople, là, vous avez le canal qui vous amène de la mer Noire à la Méditerranée.
Oui.
Et depuis les accords de Montreux, la Turquie peut pas. Il y a des trucs qu'elle peut pas laisser passer qu'elle est obligée de laisser passer.
Oui,
elle a pas le choix.
Elle est obligée de laisser passer effectivement.
Les navires russes,
voilà,
etc.
Elle peut pas décider. La Turquie n'a pas le droit de décider elle-même sur ce canal qui n'a pas le droit de passer.
Et qu'elle peut décider. Bref, donc il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire d'organisations internationales qui pour des voies. Si vous dites par exemple aux Anglais. Qui doivent rendre Gibraltar, qui contrôle l'entrée de la Méditerranée, ça va pas les amuser non plus.
Donc vous avez
quand il s'agit de canaux, de voies de communication comme ça, très importantes, de passage, les droits de l'homme ou les droits du pays qui, les droits de l'Espagne depuis Gibraltar, ça s'est passé quand ? Il y a longtemps, il y a plus de 200 ans. Donc, Gibraltar, ça fait partie de la couronne britannique. L'Espagne, elle a bougelé. Donc, si vous voulez, le droit de la principale puissance maritime de contrôler un canal qui lui permet d'assurer, ça n'a pas toujours été le droit du pays dans lequel ce canal passait, quoi.
Oui, surtout quand c'est le Panama, quoi.
Voilà, Panama, Suez, tout ça, c'est...
Oui.
Voilà, bon. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, en ce qui concerne le Groenland, regardez simplement une carte en mettant le Groenland, si vous voulez, au sommet de la carte, et puis les pays autour, comme ça, ben vous contrôlez absolument tout l'Atlantique si vous contrôlez le Groenland. C'était d'ailleurs une principale base militaire des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a trois pelés, deux tondus.
Oui, oui.
Ils sont pas très nombreux, qui sont plutôt d'origine danoise, mais qui ont une quasi-indépendance vis-à-vis du Danemark. Et ce qu'il leur dit Trump, il leur dit donc vous voudriez pas devenir américain par hasard, parce que donc faut pas oublier 40% du territoire des États-Unis ont été obtenus en les achetant. Depuis la Louisiane.
Oui, ça fait un paquet, oui, tout à fait.
Depuis la Louisiane, l'Alaska, enfin, vous en avez eu un paquet. Sans compter, à l'époque, c'était Hollandais qui avait acheté New York aux Indiens, le Nouvel Amsterdam. Donc, l'idée de dire aux gars, on va vous donner plein de pognon.
Ah bah, c'est sûr, je viens de regarder, ils sont moins de 60 000, les habitants du
Groenland. Si on leur donne quelques dizaines de milliards de dollars,
oui.
Ils seront contents. Ça me rappelle quelque chose que j'ai connu à Hong Kong, que je vais vous raconter parce que je suis un vieux couillon, j'ai le droit de raconter mes histoires de guerre quand même. Alors à Hong Kong, vous savez, la terre sous-jacente appartient toujours au gouvernement de Hong Kong. Vous pouvez bâtir dessus, puis au bout de 100 ans, ça retourne au gouvernement
d'accord,
de Hong Kong.
Oui.
Bon. Il n'y avait que deux endroits où la terre appartenait à ce qui était bâti dessus, déjà. C'était la cathédrale de Hong Kong. Ça appartenait à l'église anglicane, quand il n'y avait rien à dire. Et puis le Jockey Club.
D'accord.
Qui appartenait aux gens qui faisaient courir les chevaux, c'est ce qui rapportait le plus d'argent en Hong Kong. Et il y a quelques années, je crois que c'est lui en Hong Kong, ça l'a énervé. C'est le Jockey Club, ça doit faire la place d'un immeuble sur une des places populaires de Hong Kong, mais enfin, c'est pas un truc très grand. Et donc le Jockey Club, la terre appartenait aux membres du Jockey Club. Et il y avait, je sais pas, il devait y avoir 500 ou 1000 personnes, je sais pas combien. Et donc, le gouvernement de Hong Kong a acheté la terre en dessous aux membres du Jockey Club, qui se retrouvaient avec un paquet de pognon, ouais. qui étaient fous de bonheur, parce qu'ils n'y attendaient pas du tout, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, ce que je dis, c'est dans le fond, peut-être Trump ça a donné des idées, ce truc de Hong Kong, et il s'est dit, je vais acheter la terre aux 60 000 qui sont là. Et si les 60 000 décident souverainement, puisqu'ils sont les seuls habitants du coin, d'accepter l'offre qui ne peut pas être refusée des États-Unis, qui peut s'y opposer ? Pas le Danemark ?
Bah, techniquement le Danemark, mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Je pense pas. L'autre jour, Trump a eu justement la première ministre du Danemark au téléphone. Apparemment, ça s'est très mal passé. Mais d'un autre côté, que va faire le Danemark ? Est-ce que le Danemark a les moyens ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont intervenir militairement ?
Non, mais en plus, si vous voulez, le Danemark a donné absolument tous les pouvoirs d'administration, etc. Aux gens qui vivent là-bas. Parce qu'ils gueulaient, parce qu'ils voulaient pas être sous la...
Oui, oui.
Donc, ils ont qu'à proclamer leur indépendance. Puis, ayant proclamé leur indépendance, eh ben, ils trouvent que finalement, c'est dur d'être indépendant. Et qu'ils veulent rattraper. Donc, je veux dire, on a des vrais problèmes comme ça, c'est. De souveraineté.
Oui.
Est-ce que le Danemark est légitime à avoir la souveraineté sur le Groenland ?
Bah, la légitimité, le truc, c'est que c'est un phénomène qui peut évoluer et qui est
on l'a vu,
qui est en partie arbitraire aussi. La légitimité, il y en a qui
il faut décoloniser le Groenland,
ouais.
Rendre le Groenland comment on appelle ça, l'émission idiote
au Groenlandais.
voilà, les Groenlandais sont très
bien. Groenland au Groenlandais, voilà. Effectivement, bah oui, ils sont 56 000, donc techniquement Trump il pourrait limite leur faire un accord aux petits oignons où il leur donnerait 1 million chacun,
ou deux ou trois ou quatre ou dix, hein, c'est pas
voilà,
vrai,
ou un truc voilà par foyer, j'en sais rien, mais c'est sûr que pour eux, je pense qu'à long terme ce sera un meilleur calcul, aussi parce que ils peuvent pas vraiment espérer grand chose, ils ne peuvent pas espérer développer le Groenland en tant que tel. Ils sont extrêmement dépendants du Danemark, puisque bah ils sont pas autonomes d'un point de vue alimentaire, tout ça.
Et puis qu'est-ce qu'ils font du poisson?
Qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, évidemment ils sont, alors le poisson, oui, ils sont obligés d'en prendre un sacré paquet. Et d'un autre côté,
encore une fois, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, il faut censer sortir de tous ces raisonnements, c'est que dans le monde dans lequel nous allons rentrer, il est certain qu'il va y avoir une chose qui me paraît tout à fait évidente, la forteresse américaine.
Oui.
C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de se dire, cette histoire d'être le maître du monde, je ramasse des claques, ça me casse les pieds, je vais me débrouiller pour
ça
être...
Ça coûte un pognon de dingue.
Ça me coûte un pognon de dingue, ils sont même pas reconnaissants.
Oui.
Dès que je leur demande du pognon, ils se mettent à pousser des cris en disant, mais comment. Donc... Il est évident que les États-Unis vont vouloir faire une zone militaire complètement protégée. La question, c'est est-ce que ça ira jusqu'à l'Amérique du Sud ? C'est pas certain, mais en tout cas, l'Amérique du Nord et le Canada et le Groenland, ça fait partie de leur zone. Bon. Donc ça va être une zone militaire américaine. Ça, qui va être essentiel. Ben. Le Danemark en fait pas partie. C'est-à-dire que quiconque attaquera le Groenland dans le futur attaquera les États-Unis. Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un attaque le Danemark ? Est-ce que les États-Unis automatiquement sont... Si le Groenland appartient au Danemark, si on attaque le Groenland, on attaque le Danemark. Donc, si vous voulez faire une forteresse américaine, vous devez avoir le Groenland, quoi.
Oui. Oui.
C'est pas possible autrement. Mais je sais pas que ça va marcher. Hein.
Ouais,
ouais. Mais en tout cas, ça veut dire des autorisations. Ça veut dire Panama et le Groenland, ça veut dire forteresse américaine, et vous n'allez pas m'emmerder dans mon territoire.
Oui, c'est clair.
C'est-à-dire, je m'en vais de partout ailleurs.
Oui.
Pour la première conclusion que je tire pour les 10 heures qui viennent, c'est les États-Unis vont se retirer de partout. Ils n'en ont rien à foutre du reste du monde.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas quand même leur sphère d'influence, ou alors ils vont
ils
pas
en foutent.
C'est-à-dire que, par exemple, je voudrais parler aussi de l'Ukraine. Il a une position très, enfin assez tranchée sur l'Ukraine.
Il envoie plus une arme.
Il envoie plus. Alors il envoie plus d'aide militaire.
Donc l'armée ukrainienne va se péter la gueule dans les 15 jours qui viennent.
Mais oui, sauf qu'il veut quand même négocier de manière assez dure avec Poutine.
C'est ce qu'il dit. Mais on va venir vous couper les armes. Avec Poutine, je veux dire, le petit Zelensky, là, il va être obligé de se dire bon, bah, il faut négocier tout de suite.
Oui, ah, mais justement, Zelensky se dit prêt à négocier. Il n'est pas complètement fou là-dessus. Il semblerait que ce que Trump veut, c'est on accepte de filer les territoires déjà conquis dans les faits à la Russie. C'est-à-dire les territoires qui sont sous occupation militaire.
Reprenez plutôt mon hypothèse, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe en Europe.
Oui.
S'il accepte pas, la Russie fera ce qu'elle veut. Donc il va faire des bruits pour dire moi je vais soutenir Zelensky avec les négociations, mais au fond de lui-même il n'en a rien à cirer.
Oui, mais alors pourquoi il veut absolument faire ce deal tout de même?
Il vous dit qu'il veut ça.
Oui.
C'est pour moi, pour dire que, vous savez, c'est ce que disait Kissinger, c'est beaucoup plus dangereux d'être un allié des États-Unis que d'être un ennemi des États-Unis, parce que donc ce brave Zelensky, il a été un allié des États-Unis, il a fait ce qu'on lui a demandé, il veut arriver ce qu'il est arrivé aux Vietnamiens,
ouais.
Il va se faire massacrer, quoi, c'est tout.
Parce que là, jusque-là, il a dit, voilà, moi, mon deal, c'est on cède à la Russie les territoires déjà conquis.
Bougez-moi une seconde, la Russie les a déjà conquis. Donc,
oui.
Oui, donc il n'y a pas. Oui, on les cède, oui, c'est-à-dire que. Vous trouvez ça dur, vous? Oui, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'état de fait.
Ah non, moi je trouve ça très justifié. Hein. Au bout d'un moment, on va pas sacrifier tout le monde pour le Donbass.
Il a conquis toutes les parties russophones.
Zelensky a l'air d'être de plus en plus favorable à ce genre d'accord.
Tout le monde s'en fout de Zelensky.
Il va
partir rapidement et quitter le. Il va prendre un avion, il va partir ailleurs, on va plus en entendre parler.
Ouais.
Ça va être comme les frères. Au Vietnam, là, comment ils s'appellent, les frères Thiem, oui, avec le cardinal de Saigon, tout ça, ils ont pris l'avion, ils sont vite barrés, puis à partir du moment où les États-Unis vous laissent tomber, et vous avez plus de troupes, vous avez plus de jeunes, vous avez plus de ça, vous avez perdu le 2/3 de votre territoire. La question essentielle, c'est est-ce que l'Ukraine va survivre? À l'est de l'Ukraine, vous avez des Russes.
Ouais.
À l'ouest.
Il n'y a plus grand monde.
non, mais dans les Donbass et tout, ils sont tous russophones.
Oui.
De l'autre côté, vous avez des Polonais, au sud, vous avez des Hongrois. Et donc, vous avez quelques Ukrainiens autour de Kiev. Quoi.
Ouais.
Donc, la question, c'est est-ce qu'on va permettre une petite principauté ukrainienne autour de Suède? Ou alors, est-ce qu'on va se partager la Pologne? Et comme on s'était partagé la Pologne, on va se partager l'Ukraine. Il y en a qui iront à la Russie, d'autres qui iront à la Hongrie, troisième qui iront à la Pologne, qui sont très contents. Ils vont récupérer la Galicie, allez. Les Polonais, ils sont très contents.
Oui.
Vous savez, quand l'Allemagne s'était emparée de la Tchécoslovaquie,
oui.
Les Polonais étaient très contents. Je crois qu'ils en ont pris un petit morceau d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Donc, ils n'avaient pas gueulé comme des ânes en disant c'est un scandale. Non,
oui.
Les nations sont des monstres froids, disait De Gaulle.
Oui, non, mais à n'en pas douter, c'est clair.
Donc, si on continue sur le truc, parce que c'est une piste intéressante. Donc,
oui.
Allons vers un monde où les États-Unis vont dire « Je veux rester, je serai la puissance dominante, hein, puis vous ne viendrez pas m'emmerder. » Bon, au milieu. Et personne n'ira parce qu'ils sont très puissants. Ça veut dire qu'ils laissent tomber l'Europe.
Mais est-ce que ça veut dire la fin de l'OTAN?
Évidemment.
Parce que moi, j'ai pas l'impression que Trump veuille sortir de l'OTAN. En revanche, il veut que les pays européens prennent leur part.
Mais donc, comme ils ne peuvent pas le payer puisqu'ils n'ont pas un rond, ils sont tous en faillite. Donc à partir du moment où ils ne payent pas, ils disent on arrête. Donc c'est le rapatriement de toutes les troupes américaines, les 970 bases qu'ils ont, allez hop, on ferme tout ça, on s'en fout. Ça veut dire on a une forteresse américaine. À partir du moment où vous avez une forteresse américaine, vous allez avoir quelque chose qui est tout à fait évident, vous allez avoir une forteresse Chine.
Oui, c'est déjà un peu le cas.
C'est déjà un peu le cas, et ils sont en train d'organiser toute la région autour d'eux, etc. Donc, vous allez avoir une forteresse Chine qui sera là et bien établie. Et comme disait Lee Kuan Yew, quand même, le grand homme de Singapour, il disait aux Américains, ne nous cassez pas trop les pieds avec la Chine, parce que dans 2000 ans, elle sera toujours là à côté de nous, tandis que vous serez peut-être plus là. Quoi. Donc, la géographie a son importance. Oui, d'ailleurs, le fait d'avoir des frontières communes, disait Lee Kuan Yew, nous, on va toujours avoir affaire avec la Chine, que vous soyez d'accord ou pas. Quoi.
Oui.
Ils sont là, quoi. Donc on n'y peut rien. Bon. Donc vous avez le monde autour de la Chine. La question, qu'est-ce qui se passe pour le Japon? Bonne question. Est-ce qu'il va plutôt vers la Chine, ce qui paraît peu probable, ou est-ce qu'il essaye de se faire inclure dans la forteresse américaine, mais ça m'étonnerait. Bon, ça va rester un petit peu à l'extérieur comme ça. Bon, ça, vous avez la forteresse américaine. Et alors maintenant, l'autre, la dernière zone, il y en a une autre aussi, mais non, on en a déjà beaucoup parlé, c'est l'Inde. Il y aurait donc une puissance indienne au milieu. Ça veut dire que l'Inde va beaucoup se développer militairement, ça c'est certain, pour asseoir son pouvoir sur l'océan Indien. Mmh. Et l'Europe est le seul endroit où il n'y a pas de pouvoir militaire. Mmh. Donc logiquement, ce que je dis depuis un certain temps, il n'y a que deux pouvoirs militaires en Europe, c'est la Russie et la Turquie. Mmh. Et donc, dans les 10 ans qui viennent, la grande histoire, c'est qui va prendre le contrôle de l'Europe, est-ce que c'est la Turquie ou est-ce que c'est la Russie ? Donc le seul endroit où il y ait un doute sur qui va être le pouvoir dominant militairement qui va imposer, c'est l'Europe.
Mmh. Alors est-ce qu'il n'y a pas tout de même une possibilité, même s'il commence à être un petit peu tard, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'Europe suive un petit peu la trajectoire ? Elle semble aujourd'hui plutôt vouloir y résister, mais est-ce qu'au final, elle ne va pas être contrainte de suivre la trajectoire que Trump est en train d'enclencher, c'est-à-dire revenir à de la bonne vieille réalpolitik, on arrête de financer les éoliennes partout et on se concentre un petit peu deux secondes sur l'avenir du continent ?
Bah oui, mais prenons un exemple aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus un seul pays européen qui est capable de faire de l'acier. Il n'y a plus d'acier en Angleterre, il n'y a plus d'acier en France. Ouais. Il doit rester encore quelques aciéries en Allemagne, mais j'en sais rien. Et il n'y a pas d'enfants, vous êtes d'accord avec moi. Donc vous n'avez ni acier ni enfants. Comment vous faites une armée ?
Bah, peut-être avec les robots Tesla d'Elon Musk éventuellement.
Oui, ouais, mais on n'en a pas.
Mais il faudra les acheter, ça c'est pas...
Il faudra les acheter, non mais ce que je veux dire par là, c'est que... L'Europe, ça n'est pas et ça n'a jamais été un projet militaire. Ça a été un projet contre l'armée, contre les armées européennes et tout. Ouais. Donc on a détruit à peu près tous les appareils militaires.
Bah, c'est un truc de juriste, oui, de post-seconde guerre mondiale.
Voilà, okay. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où chaque zone devra avoir son protecteur militaire. Donc la question pour l'Europe, c'est où il y en a un qui naît à l'intérieur. Par exemple, on pourrait imaginer si on était que la France, l'Italie et l'Espagne essayent de monter une espèce de marine commune pour contrôler le nord de la Méditerranée. Ouais. Ça, on pourrait l'imaginer.
Oui, tout à fait.
Mais qu'est-ce que les Allemands viendraient foutre dans cette bagarre ?
Les Allemands, pas grand-chose.
Pas grand-chose, non. Donc, on peut imaginer une espèce d'alliance des pays du Sud qui ferait face au, mettons, au monde turc. Vous me direz, ça n'a rien de nouveau. Hein.
Non.
On remonte,
effectivement.
On remonte à Lépante. Ouais. Mais pendant qu'il y avait Lépante, là... Ben, vous aviez les chevaliers teutoniques qui étaient en train d'essayer de se mettre sur la gueule avec les Lettons, les Russes et tout ça. Bon, donc, il y avait un pouvoir militaire qui était ce qui allait devenir la Prusse, qui était les chevaliers teutoniques, qui poussait pour empêcher l'arrivée des Slaves. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir militaire pour empêcher l'arrivée des Slaves. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vois très bien ce qui va se passer en Chine, je vois très bien ce qui va se passer en Inde, je vois très bien ce qui va se passer aux États-Unis. Et en Europe, je me dis, si je vois quelque chose, c'est qu'il est urgent que j'achète une maison à Miami, quoi.
Ouais.
Ouais, je veux dire, c'est...
Mais c'est pas bête, une petite maison à Miami, ouais. Une
petite maison à Miami, quand même.
On pourrait aller faire des émissions là-bas.
Hein. J'ai une fille qui vit à Porto Rico, donc elle me... j'imagine qu'elle m'acceptera si je lui demande gentiment, quoi. Mais donc c'est l'endroit où est née cette espèce de tentative de faire un monde basé sur le droit plutôt que sur la nation, qui est le plus virulé. Donc c'est celui où les incertitudes sont les plus grandes.
Oui.
Les autres, j'ai pas tellement d'incertitude ce qui va arriver en Chine. Le Japon aussi, ça me laisse un petit peu. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire.
Oui, bah le Japon, le grand problème, c'est la démographie.
D'abord, ils ont une démographie effrayante, et puis donc voilà, vous avez donc si je réfléchis, je me dis bon, vous avez donc un monde nord-américain qui très certainement restera chrétien. Mmh. Donc ce sera là où il y aura la chrétienté, quoi. C'est, mmh. Notre monde, et d'abord, il est post-chrétien, si j'ose dire. Il y a les églises, enfin, elles sont, vous allez voir, elles sont toutes vides, c'est effrayant. Et puis il y a une civilisation, les musulmans qui rentrent, donc ce qui sera le monde européen, je sais pas s'il sera chrétien, musulman, j'en sais rien, dans 10 ans, mais en tout cas ça peut aller très vite.
Ouais.
Le monde chinois, bon, il sera confucéen comme toujours, et avec tous les gens autour de lui. Le monde indien, alors la religion indienne, c'est encore un merdier pas possible. Je sais pas combien de centaines de dieux qu'il y a, c'est un truc assez curieux. Très animiste et tout, mais avec quand même. Donc là aussi, c'est une espèce d'unité civilisationnelle. Puis il y a cet immense monde musulman qui va du Pakistan jusqu'à toutes les républiques du nord, au nord de l'Himalaya. Là, donc vous avez cet immense arc là. Là aussi, on se dit bon, ce sera la possibilité d'une grande Turquie est forte, donc un grand axe musulman. Mmh. Mais l'Europe, j'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va se passer.
Ouais.
C'est ça. Donc pour moi, l'immense interrogation, c'est pas ce qui va se passer en Chine, c'est pas ce qui va se passer aux États-Unis. Tout ça, ça m'a l'air déjà bien compréhensible. Mmh. C'est ce qui va se passer chez nous.
Ouais. Bah, c'est clair que quand on voit la trajectoire qui est en train de prendre ce continent, et c'est d'autant plus palpable et visible avec toutes ces questions d'intelligence artificielle. On voit que, alors, aujourd'hui, théoriquement, les USA sont dominants sur l'IA. Maintenant, on a le truc de DeepSeek, voilà, où les Chinois nous rappellent que eux aussi, ils savent bidouiller 2-3 trucs, quand même, voilà.
Et puis, pour moins cher.
Voilà, pour moins cher. Donc, pareil, ça nous rappelle l'efficacité nécessaire dans un monde capitaliste. Et à mon avis, peut-être que Elon Musk se dit, ah, enfin, un défi à ma hauteur.
Non, mais ce qui se passe, ce qui me fait toujours rigoler, c'est ce que j'ai dit ce matin, mais les gens dans les marchés financiers adore Schumpeter, la révolution, vous savez, parce que mais ils espèrent ensuite que cette révolution va amener à une fin de la création destructrice, parce qu'enfin on arrivera à un monopole
On veut tous avoir la petite valeur qui vaut, je sais pas, 50 millions et qui va valoir 4000 milliards dans quelques années, et qui aura un monopole absolument changé
jusqu'à la fin des temps. Voilà. Or, la beauté de la création destructrice, c'est qu'elle se dévore elle-même.
Oui, bien sûr.
Et bien, on vient de le voir avec l'intelligence artificielle. Bon, les Américains sortent un truc et 5 ans après, les Chinois sortent un truc qui coûte 100 fois moins efficace. Parce qu'apparemment, ça coûtait, d'après ce qu'on dit, 6 millions.
Oui.
Et la valeur de la baisse des valeurs la valeur de marché des affaires d'intelligence artificielle des États-Unis a baissé de 1 000 milliards de dollars. Ouais, boum, en une journée. Donc vous vous rendez compte que 6 millions d'inventions détruisent 1 000 milliards ici, ouais. C'est monstrueux. Alors, la création destructrice. Hein.
Je pense que sur les 6 millions, moi je suis un peu en désaccord avec ce chiffre, mais il semblerait que ce soit le prix d'entraînement, ce qui reste au demeurant très, très faible, mais apparemment c'était juste le prix d'entraînement de l'IA, et il semblerait, parce que forcément il y a un casus belli un peu là-dessus, il semblerait qu'ils
aient eu accès
à 50 000 pièces puces.
C'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les Américains pour essayer de m'aimer. J'ai vu, on m'avait expliqué que Huawei allait faire faillite parce qu'ils étaient, ils n'avaient pas les bons chips à nouveau. Mm-hmm. Et puis Huawei, maintenant, ils taillent des croupières à Apple avec des chips bien meilleurs que les Chinois ont fait. Donc les Américains ont pensé que les autres les rattraperaient jamais.
Ouais.
Ben, c'est une erreur qu'ont fait qu'on fait beaucoup de gens, les fabricants de t-shirts pour commencer, puis les fabricants de chaussures. Maintenant, on est à l'intelligence
artificielle. Au départ, c'est les
fabricants. Que les Chinois vont pas y arriver, c'est pas un truc qui est gagnant, ça.
Oui, oui, effectivement. ils gagnent beaucoup de terrain, mais à la fois, c'est d'autant plus sain, en fait, pour le capitalisme, parce que ça veut dire qu'il y a d'autant plus d'innovation. Et dans tout un tas d'autres domaines, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course à l'intelligence artificielle, et on parle beaucoup des intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire les ChatGPT, les machins, les assistants IA. Bon, ça, au bout d'un moment, on va avoir suffisamment d'assistants IA et on aura quelques-uns qui vont réussir vraiment à se départager. Un petit peu finalement comme les moteurs de recherche. On n'a pas, voilà, il peut pas y avoir 500 moteurs de recherche dans le monde. Il y en a forcément qui font faillite. En revanche, derrière, tout l'intérêt de l'IA, c'est sa dispersion dans tous les domaines, notamment les domaines médicaux ou autres, ou dans l'industrie, ou dans l'énergie avec la recherche dans le nucléaire, par exemple. C'est ce genre de truc où l'IA, en fait, n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un moyen pour tout un tas de trucs.
Mais le problème, c'est qu'on disait que cette IA, telle qu'elle était dessinée par les Américains, il fallait qu'on dépense 500 milliards de dollars, ou je sais pas combien, pour trouver des gars, pour faire des trucs, faire des nouvelles chips et tout. Et si les gars réussissent à le faire avec 6 millions, c'est un peu gênant.
Ouais.
Parce que ça prouve aussi que toutes les espèces d'immenses investissements dans l'énergie qu'on a fait, parce que tout ça demandait une énergie folle, à exploser et tout. Si vous faites ça dans votre cuisine avec votre générateur solaire, c'est plus la même chose. Donc, les Américains arrivaient en disant on va dominer parce qu'on est capable de mettre 500 milliards de dollars avec personne. Ouais. 500 milliards de dollars. Et puis les Chinois disent non, nous, vous savez, on a trouvé un truc à 6 millions qui fait la même chose. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que cette tentative des États-Unis d'expliquer qu'ils allaient dominer l'IA et donc qu'ils allaient dominer le monde pour le siècle qui vient, ça vient peut-être de s'écrouler complètement. L'exceptionnalisme américain, que eux seuls étaient capables de mobiliser tout ça et de faire... peut-être pas. Peut-être vous étiez en train de faire des investissements idiots, quoi.
Oui, non, mais c'est sûr. Alors, ils sont très très forts, mais il n'y a pas de pouvoir magique.
Il n'y a pas de pouvoir qui s'entretient toujours.
Oui.
C'est ça qui me tue. On disait, ils vont gagner, maintenant on en a pour un siècle. Le truc qui dure un siècle, c'est le Reich de Milan, vous savez, c'est pour Hitler, ça.
Ça dure un peu moins de temps.
Ça dure une trentaine d'années. Donc, cette recherche perpétuelle d'une situation stable dans laquelle je vais rester riche pour toujours, sans que j'ai à faire de nouveaux efforts, non, les gars, dès que vous cessez de faire des efforts, vous plongez.
Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, Trump en a parlé de cette intelligence artificielle, et j'ai trouvé sa réponse très satisfaisante, c'est-à-dire que déjà, il trouve que c'est une invention très positive, et ensuite, il dit, il n'est pas question de faire des réglementations, je ne sais pas quoi, pour essayer d'empêcher les Chinois de faire leur truc, il est question juste de chez nous se bouger le cul et de faire encore mieux. C'est l'idée.
C'est l'idée. C'est moi, je trouve ça. Ça me fait toujours rigoler, mais c'est la seule façon de vivre, c'est de vivre dangereusement. Si vous imaginez qu'un jour vous pourrez vivre ayant beaucoup travaillé, etc., et vivre comme un rentier, eh ben votre rente disparaîtra. C'est d'ailleurs dans les Évangiles, vous savez ça. Le type qui a gagné beaucoup d'argent, il se fait construire des jolis greniers, il met tout son blé dedans, il se dit « je suis tranquille maintenant jusqu'à la fin des temps », et hop, il meurt pendant la nuit, quoi.
Ouais.
Et le Dieu Seigneur lui dit « t'es complètement idiot, t'aurais mieux fait d'investir cet argent, au moins tu serais amusé ». Donc, je veux dire par là, c'est que se casser la gueule, c'est ce qu'il y a de plus motivant. Donc, les civilisations qui vont dominer, je peux vous le dire tranquillement, c'est celle où on accepte le plus de se casser la gueule.
Ouais. C'est l'acceptation du risque, en fait.
C'est l'acceptation du risque, de l'échec.
Ouais.
Et là, ce qui est tuant chez nous, c'est qu'on fait en Europe...
Nous, c'est tout l'inverse. Justement, on parlait aux États-Unis, il y a donc ChatGPT, XAI, il y a Microsoft qui est sur son truc et tout. Maintenant, il y a les Chinois. Et nous, il y a deux trucs. Nous, on se gargarise de faire les premières réglementations IA pour réussir à ne rien faire.
On va demander qui, j'imagine, à Monsieur Breton de s'en occuper.
Breton, mais apparemment, ils ont l'air de très bien se débrouiller sans lui sur tout ce qui est réglementation. Donc ça, c'est formidable. C'est comme ça, Breton s'est montré deux fois inutile. utile dans l'activité et dans l'inactivité. Le gouvernement français sort son intelligence artificielle aussi, Lucie, qui a été faite par des types du CNRS. Lucie n'est pas capable de faire un problème de maths très simple. Vous lui demandez de faire 2 facteurs de 3 plus 2, par exemple, entre parenthèses. Elle sera capable de vous faire un résultat qui n'a absolument aucun sens. Ils ont déjà retiré l'intelligence artificielle au bout de même pas une journée, parce que c'était tellement scandaleux que... Enfin bref, voilà où on en est, nous, c'est-à-dire un retard absolument colossal. Et pourtant, on a tout à fait les ressources humaines pour faire ce qu'il y a à faire. Je voyais un truc il y a pas si longtemps, c'était que les boîtes de tech françaises étaient valorisées à environ un total d'environ 500 millions de dollars en France. Et en revanche, les boîtes de tech fondées donc par des Français, mais qui étaient aux États-Unis, au total, elles étaient valorisées à 65 milliards, c'est-à-dire 130 fois plus. Voilà, donc même les Français sont plus performants.
Oui, mais ils n'ont pas l'inspection des finances en France, aux États-Unis, donc ça empêche beaucoup le développement des États-Unis, ouais. C'est certain. Mais c'est toujours pareil. Regardez, par exemple, je vais parler avec ce brave Berkoff, là, le désir de la Banque Centrale Européenne de capturer les 300 milliards d'euros qui vont s'investir chaque année d'Europe aux États-Unis. Et monsieur Villeroy de Gallo trouvait qu'il fallait le laisser ici, et tout.
Oui.
Mais si les 300 milliards s'en vont.
Oui.
C'est sans doute que la rentabilité du capital investi aux États-Unis est plus forte que celle qu'elle est en France.
Oui,
donc ça veut dire que ce que demande M. Villeroy de Gallo, c'est un impôt qu'on prélèvera sur les types qui n'auront pas la rentabilité qu'ils méritent pour permettre à M. Villeroy de Gallo de s'amuser avec ses cubes pour essayer de gagner de l'argent avec ça, alors qu'il n'en a jamais gagné de sa vie. Donc, tant qu'on refusera de considérer le droit de propriété avec son corollaire, la prise de risque, et avec son corollaire, celui qui a réussi, eh ben, il a plein de pognon, il en a beaucoup plus que ceux qui n'ont rien fait. Donc, si vous voulez, tant qu'on continuera à considérer que M. Bernard Arnault est un ennemi de l'humanité, eh ben, on ira de plus en plus faire l'Union soviétique et la rupture et la fin du monde, quoi.
Ouais,
et on sera la fin de la civilisation. À partir du moment où plus personne ne veut prendre le moindre risque parce que ça ne paye pas de prendre des risques, on est foutu.
Ouais. Oui, c'est clair. Ce qu'on a vu en termes de réglementation, on voit que l'Europe est en train elle est en train de flancher tellement par rapport aux États-Unis. On a une croissance en France qui est ramenée à 0,8%. Aux États-Unis, on va être au-delà des 3%. Tout est comme ça.
On a mis des choses dans le PIB, comme le nombre de fonctionnaires qu'on a embauchés, etc.
Ah, oui.
Le secteur en plus, privé, oui, c'est
tout à fait. Et aussi sur ce que disait Villeroy de Gallo sur les capitaux des Européens qui vont aux États-Unis. En plus de ça, c'est une réflexion très bête, même d'un point de vue, fiscal français, puisque si vous avez une meilleure rentabilité du capital ailleurs, ça veut dire que vous allez pouvoir taxer beaucoup plus de capital qui reviennent justement des États-Unis au titre des dividendes et au titre des plus-values. À ce moment-là, c'est même un meilleur calcul de laisser les gens faire ce qu'ils veulent.
C'est toujours un meilleur calcul de céder. À la place, si vous voulez, c'est ce que Didier appelle le monde de la concentration et le monde de la dispersion. Vous prenez par exemple la bourse pour savoir ce que vaut telle ou telle valeur. Il y a des dizaines de milliers de gens qui achètent, qui vendent ce titre tous les jours. Bon. Donc, c'est vraiment un truc expérimental où tout le monde achète. Donc, on peut penser que sur le long terme, les prix qu'on atteint en bourse sont les bons. À chaque moment, c'est jamais le bon, mais sur le long terme, on va trouver la bonne chose. Mais vous prenez la détermination des taux d'intérêt. C'est 5 ou 6 crétins qui ont 70 ans dans une banque centrale qui n'ont jamais fait autre chose, qui décident de voter les taux d'intérêt. Donc là, c'est des prix administrés. Et là, c'est des prix libres.
Oui.
Donc il est évident que les sociétés où il y a des prix libres vont mieux que celles où il y a des prix administrés. Donc ce que nous demande M. Villeroy de Gallo, c'est d'administrer les 3000 milliards de dollars qui jusque-là étaient bien gérés pour devenir mal gérés. Mais mon grand, qu'est-ce qui te permet de demander ça?
Je ne sais pas, c'est encore une fois c'est une lubie de hauts fonctionnaires qui pensent que l'argent des autres est un petit peu le sien par destination, et que finalement, ce que vous avez sur votre compte en banque, c'est uniquement ce que la banque centrale vous laisse, quoi.
Mais voilà, elle veut bien vous laisser dans sa grande bonté. C'est-à-dire que le droit de propriété, c'est un droit pour les Américains qui est inné, ils naissent avec. Et chez nous, c'est dans sa grande bonté, l'État nous laisse disposer d'un petit peu du produit de notre travail.
Voilà.
C'est pas du tout inné. Donc, ces hommes politiques, ces hauts fonctionnaires, ils pensent que dans le fond, le pognon leur appartient. Et j'ai eu des discussions avec des gars, ils me disaient, mais regardez, la fortune française est de je sais pas combien, il n'y a aucun problème avec la dette. Je leur ai dit, mais oui, la dette, c'est la dette de l'État, et là, c'est la fortune des Français.
Français, oui.
Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pas l'État. Pourquoi ils ont été gérés comme des cochons? Pourquoi auraient-ils le droit de venir chercher votre pognon?
Ça montre juste que les Français gèrent beaucoup mieux leurs finances que leur État.
Ben, c'est pas eux qui s'en occupent, oui.
Ouais.
Donc, si vous voulez, pour moi, la vraie question, pour vous répondre à la fin, pour finir avec ça sur votre question, c'est que je vois très bien quel est le processus de décision qui va amener aux solutions aux États-Unis. C'est la forteresse en Chine, en Inde. Le Japon, c'est un peu douteux. Dans le monde musulman, mais là, c'est un peu le bordel parce qu'ils ont du mal tant qu'ils n'ont pas un calife. Mais s'ils ont un calife, à ce moment-là, c'est les autres qui ont du mal. Et puis l'Europe, je vois rien. Donc j'ai une espèce d'immense trou gris. Donc quand j'essaye de réfléchir à ce que va venir l'Europe, j'ai aucune idée.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, cependant, peut-être quelques pays qui, eux, vont s'en tirer à titre individuel?
Ben, c'est ceux qui ont été le plus sous la pression turque pendant des siècles, c'est-à-dire la Pologne, l'Hongrie, l'Autriche, qui sont battus contre les Turcs, etc. Donc eux... Je vois réapparaître avec amusement un petit peu réapparaître l'Autriche-Hongrie.
Oui.
Si vous voulez, donc, il est possible que l'Autriche-Hongrie, qui d'ailleurs, tout le sud de l'Italie était l'Autriche-Hongrie aussi, donc, si vous voulez, donc il est possible que cette espèce de masse qui est dans le fond autour des Alpes, vous voyez, survive comme Europe. C'est peut-être là où l'Europe chrétienne va survivre.
Oui, c'est une possibilité. Ouais. En tout cas, c'est là où, excepté l'Italie, c'est là où les taux de fertilité sont les plus élevés en Europe. Voilà, c'est pas non plus, ça casse pas le plafond, mais comment dire, comparativement aux autres, il y a une meilleure trajectoire. Quoi.
Voilà, donc c'est un monde qui est assez clair pour l'Asie, pour l'Inde, pour les États-Unis, puis un monde où il y a... On sait pas.
Oui. C'est ça, c'est un peu la grande inconnue. À chaque fois, les droites radicales qui ont un peu plus conscience de ce problème que les autres, mais encore ça dépend, sont en train de percer dans tout un tas de pays, mais ça prend beaucoup de temps et on ne sait pas en fait si même en arrivant au pouvoir.
Et puis les droites radicales, moi je vois, il y a deux droites en France, si vous voulez, une droite, mettons, orbanienne qui serait. Et puis vous avez une droite maurassienne, j'ai encore lu quelques trucs de cette... qui a une caractéristique extraordinaire, cette droite, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est qu'elle est païenne. Elle se rattache intellectuellement à la Grèce, et elle refuse complètement tout ce qui est chrétien. Et donc c'est des espèces de fruits secs sans aucun intérêt, qui ne comprennent rien au monde et qui ne comprendront jamais rien. Et donc je me dis, bon, le vrai problème de la France, c'est que notre droite a cessé d'être chrétienne il y a très longtemps. Et elle est devenue païenne, elle est devenue la logique grecque, et c'est tout. Mais il n'y a pas la morale à côté. Ils ont une logique et ils sont complètement inhumains.
D'accord.
C'est ça qui me surprend le plus, c'est toute cette droite. Je me dis... Ils ont un côté stérile.
Oui, il peut y avoir de la stérilité. Oui,
ils sont complètement stériles. Ouais. Par exemple, ils vous expliquent que le capitalisme a amené à une déperdition extraordinaire, qu'on est tous ruinés. Ouais. On est beaucoup plus mal qu'il y a 100 ans ou 150 ans. Mais à 150 ans, tout le monde mourrait à 35 ans de faim. Donc ils sont complètement dans un monde...
Ça, c'est quand on traîne un petit peu trop dans les bibliothèques et pas assez dans le vrai monde.
Voilà, qu'ils n'ont jamais rien fait de leur dix doigts. Le problème de la France, c'est qu'on disait la droite la plus stupide du monde, mais c'est la droite la plus haïssable du monde pour moi. Parce qu'ils sont tellement inhumains, ils sont tellement imbus de leur propre survie intellectuelle que ça me rend malade.
Moi, je pense qu'il y en a un paquet d'autres aussi, un petit peu dans le genre ailleurs, mais c'est vrai que... On a souvent l'impression, effectivement, d'avoir des camps politiques qui sont censés nous représenter et qui sont pas tellement...
Par exemple, Roger Scruton aux États-Unis, c'était un type de... En Angleterre,
au Royaume-Uni, ouais.
et, au Brian Moody, c'était un type de droite parfaitement sympathique, écrivait merveilleusement, qui aimait la beauté, qui aimait l'histoire, etc. Et où est le Roger Scruton français, quoi? On a que des gars qui sont des historiens secs et... Non, si, un petit peu...
Ouais.
Villiers, c'était cette espèce d'appel à l'histoire, appel
ouais.
à...
Ouais.
Y a que...
On pourrait presque rajouter Bocoté, mais techniquement, il est, si vous lui dites qu'il est français, je pense que vous allez vous en prendre
français, il vous en demandera pas trop. C'est si vous lui dites que vous êtes canadien. Là, il vous fait une tête au carré. Il n'est pas canadien, il est québécois.
Finalement, il est peut-être plus français que canadien maintenant.
Maintenant, oui, j'espère que non. J'espère qu'il va garder son originalité, parce que pour moi, c'est essentiel. Voilà, donc, vous m'avez posé des questions, j'ai essayé d'y répondre. Donc, dans le domaine des capitaux, ça veut dire que vous aurez un droit de propriété qui sera raisonnable aux États-Unis, vous aurez un droit de propriété, et donc les contrats doivent à peu près fonctionner aussi en Chine, en Inde probablement aussi. Avoir des contrats, des obligations, etc. en Europe, ça me paraît de la folie. Vous pouvez avoir que des droits de propriété.
Ouais.
Que des droits de propriété. Vous ne pouvez rien avoir de contractuel.
Ouais.
Donc voilà, c'est ce que je me tue à dire, mais voilà, tout me confirme dans cette opinion.
Effectivement.
Ben voilà.
On espère.
C'est ce que me disait toujours mon moniteur de ski quand j'étais à Méripel et que je me cassais la gueule, ce qui m'arrivait fréquemment. Ouais. Et il me disait, et voilà, vous avez encore fait une faute de car.
on espère quand même que. Même si on ne voit pas tout à fait ce phénomène venir, mais on espère que l'Europe pourra... Oui, tout à fait, on va le suivre, ça c'est clair. Il se passe quand même de temps en temps des choses intéressantes, mais on ne ressent pas tout de même cette lame de fond, ce changement de paradigme hyper puissant que semble incarner Trump en ce moment.
Madame Meloni.
Voilà, non, mais il y a des éléments comme ça qui sont très intéressants. Il y a des choses qui se passent aussi dans les pays scandinaves, alors même si... eux, c'est particulier, eux, ils changent du tout au tout, mais ils font comme si rien ne changeait au fond, c'est-à-dire qu'ils restent des sociaux-démocrates scandinaves tout à fait classiques, mais ils gèrent quand même certains problèmes, ça va un peu mieux que chez nous. Et puis bon, là il y a chez nous, là carrément on a Beyrouth, donc là il se passe pas grand chose, c'est sûr, mais enfin voilà, on espère que les choses changeront. De toute manière, si c'est le cas, on sera sur le sujet, et sur ce, je vous remercie bien sûr pour votre attention.
Merci,
comme d'habitude. Si possible, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notes, activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on lance les vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Et posez vos questions
aussi de temps en temps, voilà, effectivement.
Merci beaucoup.
Merci.